From the conference center at Temple Square.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy avec Bonnie Goodliff et Linda Margetz à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Lord, the mighty God appearing ». David F. Evans, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Notre cher Père Céleste, nous nous présentons devant toi au début de cette dernière session de la Conférence Générale et nous t'exprimons, Père, notre gratitude la plus profonde pour les bénédictions et les instructions que nous avons éprouvées en étant assemblés ici, tous ensemble, en écoutant le prophète, ses conseillers, le collège des 12 apôtres et tous ceux qui ont reçu la tâche de parler. Père, nous avons attendu cette fin de semaine avec beaucoup d'anticipation et nous sommes reconnaissants d'être rassemblés pour être fortifiés dans notre foi et d'avoir la bénédiction d'entendre ta voix. Nous te prions que ton esprit soit avec nous pendant cette session pour que nous éprouvions la paix, qu'il y ait un riche déversement de compréhension afin que nous alignions notre volonté avec la tienne. Nous te prions de bénir tous les orateurs, ceux qui vont chanter, afin que ton esprit et ta bénédiction nous accompagnent. Père, nous sommes reconnaissants d'avoir la bénédiction de soutenir Président Monson comme prophète. Nous prions de le bénir, lui et ses conseillers, en toutes circonstances, dans leur vie. Nous te consacrons cette réunion en te demandant de la bénir au nom de Jésus-Christ, en toute humilité. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre M. Russell Ballard et Richard G. Scott du Collège des 12 apôtres. Ils seront suivis de Carlos A. Godoy, des 70, qui fera son discours en portugais, sa langue maternelle. Un sous-titrage en anglais s'affichera sur les écrans du centre de conférence.
Récemment, un de mes amis a emmené son fils faire une descente du fleuve Colorado à travers les gorges Cataract qui se trouvent dans le sud-est de l'Utah. Ce canyon est célèbre pour ses 23 km de rapides qui peuvent être particulièrement dangereux. En prévision de l'aventure, ils avaient minutieusement lu la page internet des services du parc national, qui contient d'importants renseignements sur la préparation personnelle et sur les dangers courants et cachés. Au début de leur expédition, un guide de rivière expérimenté a passé en revue les consignes de sécurité importantes, soulignant trois règles clés qui permettraient au groupe de passer les rapides en sécurité. Règle numéro 1, rester à bord. Règle numéro 2, toujours porter son gilet de sauvetage. Et règle numéro 3, toujours se tenir avec les deux mains. Il a ensuite répété, avec davantage d'insistance, par-dessus tout, souvenez-vous de la règle numéro 1, restez à bord. Cette expédition me fait penser à notre voyage dans la condition mortelle. La plupart d'entre nous, à certaines périodes de la vie, traversent des eaux tranquilles. À d'autres périodes, nous rencontrons les eaux tumultueuses de rapides métaphoriquement comparables à celles que l'on trouve dans ce parcours de 23 km des gorges Cataract. Des difficultés qui peuvent comprendre des problèmes physiques et mentaux, la mort d'un être cher, des rêves ou des espoirs anéantis, et même, pour certains, une remise en question de leur foi face aux problèmes, aux questions et aux doutes de l'existence. Dans sa bonté, le Seigneur a prévu une aide qui inclut un bateau, des fournitures essentielles, comme un gilet de sauvetage, et des guides de rivière expérimentés qui nous guident et nous donnent des consignes de sécurité pour nous aider à avancer sur le fleuve de la vie jusqu'à notre destination finale. Prenons la règle numéro 1. Rester à bord. Brigham Young employait communément la métaphore du bon vieux navire de Sion pour parler de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Un jour, il a dit, « Nous sommes au milieu de l'océan, une tempête arrive, et comme le disent les marins, le navire souffre beaucoup. Je ne reste pas ici, dit quelqu'un. Je ne crois pas que je sois sur le navire de Sion. Mais nous sommes au milieu de l'océan. Je m'en moque. Je ne reste pas ici. Et d'ôter le gilet de sauvetage et de sauter par-dessus bord. Ne va-t-il pas se noyer? Si. Ainsi en va-t-il de ceux qui quittent l'Église. C'est le bon vieux navire de Sion. Restons-y. En une autre occasion, le président Jung a dit que lui aussi se souciait des personnes qui s'égaraient alors qu'elles étaient bénies et que la vie leur était clémente. Je cite, « C'est par temps calme, lorsque le bon vieux navire de Sion navigue sous une brise légère et que tout est tranquille sur le pont, que certains frères veulent prendre les chaloupes pour aller nager. Certains se noient, d'autres dérivent au loin, et d'autres encore remontent sur le navire. Restons sur le bon vieux navire, et il nous ramènera sains et saufs à bon port. Ne vous inquiétez pas. » Pour finir, le président Jung a rappelé aux saints, « Nous sommes sur le bon vieux navire de Sion. Dieu est à la barre, et il y restera. Tout est bien, chantez Alléluia, car le Seigneur est ici. Il dicte, guide et dirige. Si le peuple fait totalement confiance à son Dieu, n'abandonne jamais ses alliances ni son Dieu, il nous guidera comme il faut. » Fin de citation. Étant donné les difficultés que nous rencontrons tous aujourd'hui, comment peut-on rester sur le bon vieux navire de Sion? Voici comment. Nous devons vivre une conversion continue en faisant grandir notre foi en Jésus-Christ et notre fidélité à son évangile tout au long de notre vie, non pas juste une fois, mais régulièrement. Alma a demandé, « Et maintenant voici, je vous le dis, mes frères et sœurs, si vous avez connu un changement de cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Les guides de rivière expérimentés peuvent aujourd'hui être comparés aux apôtres et prophètes de l'Église et aux dirigeants locaux inspirés de la prêtrise et des auxiliaires. Ils nous aident à arriver sains et saufs à notre destination finale. Récemment, j'ai prononcé un discours dans le cadre d'un séminaire pour les nouveaux présidents de mission, et j'ai donné à ces dirigeants ce conseil. Gardez les yeux de la mission fixés sur les dirigeants de l'Église. Nous ne vous égarerons pas, et ne pouvons pas le faire. Et quand vous enseignerez à vos missionnaires à garder les yeux fixés sur nous, enseignez-leur à ne jamais suivre les personnes qui pensent en savoir plus sur la manière d'administrer les affaires de l'Église que notre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ, qui le font à travers les dirigeants de la prêtrise, qui détiennent les clés pour présider. Au cours de mon ministère, j'ai découvert que ceux qui se sont perdus et qui ne savent plus où ils en sont, sont généralement ceux qui, le plus souvent, ont oublié que lorsque la première présidence et le collège des douze apôtres parlent d'une même voix, c'est la voix du Seigneur pour cette époque. Le Seigneur nous rappelle ceci, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. En d'autres termes, ils quittent le bon vieux navire de Sion. Ils s'égarent, ils apostasient. Tragiquement, ils subissent des conséquences involontaires à court et à long terme, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Nos dirigeants locaux de l'Église, comme les guides de rivière expérimentés, ont été formés par les expériences de la vie. Ils ont été formés et guidés par des apôtres, des prophètes et d'autres officiers de l'Église. Et surtout, ils ont été formés par le Seigneur lui-même. Cette année, en une autre occasion, je me suis adressé aux jeunes adultes de l'Église lors de la veillée du DE diffusée en mai. Je leur ai dit, « J'ai entendu dire que certaines personnes pensent que les dirigeants de l'Église vivent dans une bulle. Ce qu'elles oublient, c'est que nous sommes des hommes et des femmes qui ont de l'expérience et que nous avons vécu dans beaucoup d'endroits et travaillé avec de nombreuses personnes issues d'horizons différents. Notre tâche actuelle nous amène à parcourir la planète. Et de ce fait, nous rencontrons les dirigeants politiques, religieux, économiques et humanitaires du monde. Nous avons rencontré les dirigeants de la Maison-Blanche à Washington et les dirigeants des pays du monde, mais nous sommes également rendus dans les foyers les plus humbles du monde. Si vous examinez attentivement notre vie et notre service, vous conviendrez très probablement que nous voyons le monde et nous le vivons comme peu de personnes ont l'occasion de le faire. Vous vous rendrez compte que nous vivons moins dans une bulle que la plupart des gens. La sagesse individuelle et collective des dirigeants de l'Église devrait être un réconfort pour vous. Nous avons tout vécu, entre autres les conséquences de différentes règles et lois publiques, les déceptions, les tragédies, la mort dans notre propre famille. Nous n'avons pas perdu le contact avec votre vie. Outre la règle numéro 1, telle que je l'ai appliquée, souvenez-vous des règles numéro 2 et 3. Toujours porter un gilet de sauvetage et se tenir avec les deux mains. Les paroles du Seigneur, rapportées dans les Écritures et dans les enseignements des apôtres et des prophètes, nous fournissent des conseils et des directives qui, si nous les suivons, feront office de gilet de sauvetage spirituel et nous aideront à savoir comment nous tenir avec les deux mains. Nous devons devenir comme les fils de Mosia, qui étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes d'une saine intelligence. Cela ne peut s'accomplir que si nous sondons diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. En sondant les Écritures et les paroles des prophètes et apôtres passés et actuels, nous devons nous attacher à étudier, vivre et aimer la doctrine du Christ. En plus de prendre l'habitude d'étudier personnellement les Écritures, nous devons être comme les fils de Mosia et beaucoup nous livrer à la prière et au jeûne. Il semble que ces choses qui ne se mesurent pas facilement soient très importantes. Restez concentrés sur ces choses simples et évitez de vous laisser distraire. J'ai connu des personnes qui ne sont pas restées sur le bateau et ne se sont pas tenues avec les deux mains pendant les périodes d'épreuves et de difficultés, ou qui ne sont pas restées sur le bateau pendant les périodes de calme relatif. Et j'ai pu observer que beaucoup d'entre elles avaient perdu de vue les vérités essentielles de l'Évangile, à commencer par les raisons pour lesquelles elles s'étaient jointes à l'Église. Les raisons pour lesquelles elles restaient totalement engagées, pratiquant les principes de l'Évangile et bénissant les autres par leur service dévoué et consacré. Et les façons dont l'Église a été dans leur vie un lieu où l'on se nourrit et où l'on progresse spirituellement. Joseph Smith a enseigné cette vérité capitale. Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été mis au tombeau, est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. Si nous restons concentrés sur le Seigneur, nous avons la promesse de recevoir une bénédiction sans égale. C'est pourquoi vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ, et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Parfois, des saints des derniers jours fidèles et des amis de l'Église sincères commencent à se concentrer sur les annexes au lieu de se concentrer sur les principes fondamentaux. C'est-à-dire que Satan nous tente afin de nous distraire du message simple et clair de l'Évangile rétabli. Les personnes qui se sont laissées distraire à ce point cessent souvent de prendre la Sainte Cène parce qu'elles se sont concentrées, préoccupées même, sur des pratiques ou des enseignements moins importants. D'autres personnes peuvent se concentrer sur les questions et les doutes qu'elles rencontrent. Bien sûr, se poser des questions et avoir des doutes n'est pas en contradiction avec le fait d'être un disciple dévoué. Récemment, le conseil de la première présidence et du collège des douze apôtres a déclaré « Nous comprenons que de temps en temps, des membres ont des questions sur la doctrine de l'Église, son histoire ou ses pratiques. Les membres ont toujours la liberté de poser ces questions et de rechercher sincèrement une plus grande compréhension. Souvenez-vous que c'est par les questions que Joseph Smith lui-même s'est posées que le rétablissement a commencé. Il cherchait, et comme Abraham, a trouvé les réponses aux questions les plus importantes de la vie. Les questions importantes portent sur ce qui compte le plus, le plan de notre Père Céleste et l'expiation du Sauveur. Notre recherche doit nous conduire à devenir des disciples bienveillants, doux, aimants, miséricordieux, patients et dévoués. Comme l'a enseigné Paul, nous devons être disposés à porter les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est aider, soutenir et comprendre tout le monde, y compris les malades, les infirmes, les pauvres en esprit et de corps, ceux qui cherchent et ceux qui sont troublés, et aussi les autres disciples membres, notamment les dirigeants de l'Église, qui ont été appelés par le Seigneur à servir pendant un temps. Frères et sœurs, restez à bord. Mettez votre gilet de sauvetage. Tenez-vous des deux mains. Évitez les distractions. Et si l'un d'entre vous tombe du bateau, nous irons à sa recherche. Nous le retrouverons, nous le soignerons et le ramènerons sain et sauf sur le bon vieux navire de Sion, à la barre duquel se trouve Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ nous guidant comme il faut. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
When Adam and Eve...
Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout ce dont ils avaient besoin pour subsister au quotidien leur était donné. Ils n'avaient ni difficulté, ni épreuve, ni douleur. Comme ils n'avaient jamais éprouvé de difficulté, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être heureux. Ils n'avaient jamais été tourmentés. Par conséquent, ils ne pouvaient pas ressentir la paix. Finalement, Adam et Ève ont transgressé le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de cela, ils n'étaient plus dans un état d'innocence. Ils ont commencé à ressentir les principes de l'opposition. Ils ont commencé à connaître des maladies qui ont affaibli leur santé. Ils ont commencé à ressentir de la tristesse ainsi que de la joie. Adam et Ève, ayant mangé du fruit défendu, la connaissance du bien et du mal a été introduite dans le monde. Leur choix a permis que chacun de nous vienne sur cette terre pour y être mis à l'épreuve. Nous avons la bénédiction d'avoir le libre arbitre, qui est la faculté de prendre des décisions et d'être responsable de ces décisions. La chute nous permet de ressentir le bonheur et la tristesse. Nous sommes capables de comprendre la paix parce que nous ressentons des tourments. Notre Père Céleste savait que cela nous arriverait. Tout cela faisait partie de son plan parfait du bonheur. Il a préparé un moyen par la vie de son Fils parfaitement obéissant, Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que son expiation surmonte toutes les difficultés que nous pouvons connaître dans la condition mortelle. Nous vivons à une époque éprouvante. Je n'ai pas besoin de dresser la liste de toutes les sources de maux du monde. Il n'est pas nécessaire de faire la liste de toutes les épreuves et de tous les chagrins qui peuvent faire partie de la condition mortelle. Nous sommes tous parfaitement conscients de nos propres problèmes, de tentations, de souffrances et de chagrins. On nous a enseigné dans le monde prémortel que notre but, en venant ici-bas, était d'être mis à l'épreuve. Nous savions que nous affronterions les méchancetés de l'adversaire. Parfois, nous sommes plus conscients des aspects négatifs de la condition mortelle que des aspects positifs. Le prophète Léhi a enseigné, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toute chose. Malgré toutes les difficultés de la vie, nous devons prendre le temps d'exercer activement notre foi. Cet exercice fait que le pouvoir positif de l'expiation de Jésus-Christ, porteuse de foi, se manifeste dans notre vie. Notre Père Céleste nous a donné des outils pour nous aider à aller au Christ et à exercer la foi en son expiation. Lorsqu'ils deviennent des habitudes fondamentales, ces outils offrent le moyen le plus simple de trouver la paix dans les épreuves de la condition mortelle. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 4 de ces outils. Tandis que je vous parle, vous pourriez évaluer l'usage que vous faites personnellement de chaque outil, puis demander au Seigneur de vous aider à voir comment vous pourriez mieux vous en servir. Le premier outil est la prière. Choisissez de parler souvent avec votre Père Céleste. Prenez le temps chaque jour de lui exprimer vos pensées et vos sentiments. Dites-lui tout ce qui vous préoccupe. Il s'intéresse aux facettes les plus importantes comme aux plus insignifiantes de votre vie. Faites-lui part de tous vos sentiments et de toutes vos expériences. Parce qu'il respecte votre libre arbitre, notre Père Céleste ne vous forcera jamais à le prier. Mais si vous exercez votre libre arbitre et l'incluez dans tous les aspects de votre quotidien, votre cœur commencera à se remplir d'une paix joyeuse. Cette paix vous permettra de voir vos épreuves d'une perspective éternelle. Elle vous aidera à gérer ces difficultés d'un point de vue éternel. Parents, contribuez à protéger vos enfants en les armant matin et soir du pouvoir de la prière familiale. Les enfants sont bombardés chaque jour par les maux de la lascivité, de la cupidité, de l'orgueil et par une horde d'autres comportements immoraux. Protégez vos enfants de l'influence profane négative en les fortifiant à l'aide des bénédictions puissantes qui découlent de la prière familiale. la prière en famille doit être une priorité non négociable de votre vie quotidienne. Le deuxième outil consiste à étudier la parole de Dieu dans les Écritures et les paroles des prophètes actuels. La prière nous permet de parler à Dieu. Il nous répond bien souvent au moyen de sa parole écrite. Si vous voulez ressentir et entendre la parole de Dieu, lisez ses paroles, étudiez les Écritures et méditez à leur sujet. Faites-en une partie intégrante de votre quotidien. Si vous voulez que vos enfants reconnaissent les murmures de l'Esprit, les comprennent et les suivent, vous devez étudier les Écritures avec eux. Ne cédez pas aux mensonges de Satan qui voudrait vous faire croire que vous n'avez pas le temps d'étudier les Écritures. Choisissez de prendre le temps de les étudier. Il est plus important de se faire un festin de la parole de Dieu chaque jour que de dormir, d'aller à l'école, de travailler, de regarder la télévision, de jouer à des jeux vidéo ou d'aller sur les réseaux sociaux. Il vous faudra peut-être réorganiser vos priorités pour trouver le temps d'étudier la parole de Dieu. Si tel est le cas, faites-le. De nombreux prophètes ont fait des promesses concernant les bénédictions associées à l'étude des Écritures. J'ajoute mon témoignage avec cette promesse. Si vous consacrez du temps chaque jour à étudier la parole de Dieu, personnellement et en famille, la paix régnera dans votre vie. Cette paix ne viendra pas du monde extérieur. Elle viendra de l'intérieur de votre foyer, de votre famille, de votre cœur. Ce sera un don de l'Esprit. Vous respirerez cette paix et influencerez par là les personnes du monde qui vous entourent. Vous ferez beaucoup pour contribuer à la paix dans le monde. Je ne déclare pas que votre vie sera exempte d'épreuves. Souvenez-vous que lorsqu'ils étaient dans le jardin, Adam et Ève n'avaient aucune épreuve, mais qu'ils étaient incapables de connaître le bonheur, la joie et la paix. Les épreuves constituent un aspect important de la condition mortelle. Grâce à l'étude quotidienne et constante des Écritures, vous trouverez la paix au milieu de l'agitation et la force de résister aux tentations. Vous acquérez une foi forte en la grâce de Dieu et saurez que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, tout sera rectifié au temps voulu par Dieu. En travaillant à fortifier votre famille et à acquérir la paix, souvenez-vous du troisième outil, la soirée familiale hebdomadaire. Prenez garde à ne pas faire de votre soirée familiale une simple activité secondaire après une journée chargée. Décidez d'être ensemble, en famille, à la maison, le lundi pour la soirée. Ne permettez pas aux exigences de votre travail, au sport, aux activités extrascolaires, aux devoirs ou à quoi que ce soit d'autre de devenir plus important que ce moment que vous passez en famille, à la maison. L'organisation de votre soirée n'est pas aussi importante que le temps que vous y consacrez. Il faut enseigner l'Évangile de manière formelle et informelle. Faites en sorte que l'expérience soit enrichissante pour chaque membre de la famille. La soirée familiale est un moment précieux pour rendre témoignage dans un cadre sûr, pour acquérir des compétences en organisation, en planification et en enseignement, pour resserrer des liens familiaux, pour instituer des traditions familiales, pour se parler l'un à l'autre. Et par-dessus tout, pour s'amuser. Lors de la dernière conférence générale d'avril, Linda Hargreaves a déclaré avec assurance « Je dois témoigner des bénédictions liées à l'étude des Écritures et à la prière quotidienne et à la soirée familiale hebdomadaire. Ce sont ces habitudes qui diminuent le stress, donnent un sens à notre vie et procurent une protection supplémentaire à notre foyer. » Sœur Reeves est une femme d'une grande sagesse. Je vous exhorte vivement à acquérir votre propre témoignage de ces trois habitudes essentielles. Le quatrième outil consiste à aller au temple. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'endroit plus paisible sur terre que les temples de Dieu. Si vous n'avez pas de recommandation à l'usage du temple, qualifiez-vous pour en détenir une. Lorsque vous avez une recommandation, utilisez-la souvent. Prévoyez régulièrement du temps pour aller au temple. Ne laissez rien, ni personne, vous empêcher d'y aller. Lorsque vous êtes dans le temple, écoutez les paroles des ordonnances, méditez et priez à leur sujet. Et cherchez à en comprendre la signification. Le temple est l'un des meilleurs endroits pour comprendre le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Cherchez-le dans le temple. Souvenez-vous qu'on reçoit beaucoup plus de bénédictions en amenant les noms des membres de sa propre famille au temple. Ces quatre outils sont des habitudes essentielles pour trouver la sécurité dans le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Souvenez-vous que notre Sauveur est le Prince de la paix. La paix dans cette condition mortelle provient de son sacrifice expiatoire. Lorsque nous prions constamment, matin et soir, étudions quotidiennement nos Écritures, tenons chaque semaine la soirée familiale et allons régulièrement au temple, nous répondons activement à son invitation d'aller à lui. Plus nous acquérons ces habitudes, plus Satan sera désireux de nous faire du mal, mais moins il en sera capable. En utilisant ces outils, nous exerçons notre libre arbitre pour accepter pleinement les dons du sacrifice expiatoire du Sauveur. Je ne veux pas dire par là que toutes les épreuves de la vie disparaîtront si vous faites ces choses. Nous sommes justement venus sur terre pour progresser grâce aux épreuves. Les difficultés nous aident à devenir plus semblables à notre Père Céleste. Et l'expiation de Jésus-Christ nous permet de les endurer. Je témoigne que si nous allons activement à lui, nous pouvons endurer toutes les tentations, tous les chagrins et toutes les épreuves que nous rencontrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Quel privilège pour un orateur de la conférence générale que de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle. C'est quelque chose d'historique. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai pris la parole, j'étais inquiet à cause de mon accent en anglais. Maintenant, je m'inquiète de la rapidité de mon portugais, de parler plus vite que les sous-titres. Nous avons tous eu l'occasion de prendre de grandes décisions. Dois-je faire ce métier ou un autre? Dois-je aller en mission? Est-ce la bonne personne à épouser? Parfois, de petits changements peuvent avoir d'importantes conséquences dans l'avenir. Le président Ourdoff a dit, je le cite, « Depuis des années que je sers le Seigneur, j'ai remarqué que la différence entre le bonheur et le malheur chez les personnes, les couples et les familles vient souvent d'une erreur de quelques degrés seulement. Comment pouvons-nous éviter ces petites erreurs de calcul ? Je vais raconter une expérience personnelle pour illustrer mon message. À la fin des années 1980, notre famille, composée de ma femme, Monica, de deux de nos quatre enfants et de moi-même, vivait à São Paulo, au Brésil, où je travaillais dans une bonne société. Je n'avais terminé avec mes études universitaires et je venais d'être relevé de mon appel d'évêque de notre paroisse. La vie nous souriait et tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce qu'un jour, un vieil ami nous rende visite. Avant de partir, il a fait ce commentaire. Carlos, tout semble aller pour le mieux pour toi, ta famille, ton métier et ton service dans l'Église. Mais, et c'est alors qu'est venue sa question qui a branlé mes convictions. Les promesses reçues dans ta bénédiction patriarcale s'accompliront-elles si tu continues à vivre comme tu le fais ? Jamais je n'avais pensé à ma bénédiction patriarcale de cette façon-là. Je la lisais de temps à autre, mais jamais dans l'optique d'y voir les bénédictions promises dans l'avenir, ni d'évaluer la façon dont je vivais dans le présent. Après sa visite, je me suis replongé dans ma bénédiction patriarcale en me demandant les promesses reçues dans notre bénédiction patriarcale s'accompliront-elles si nous continuons à vivre comme nous le faisons ? Après avoir médité, j'ai senti qu'il fallait procéder à quelques changements, notamment ce qui concernait mes études et ma situation professionnelle. Il ne s'agissait pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le bien et le mieux. Comme nous l'a enseigné Dallin Hawkes, je le cite, « Quand nous réfléchissons à des choix que nous avons à faire, nous devons nous rappeler qu'il ne suffit pas que quelque chose soit bon. D'autres choix sont meilleurs et d'autres sont les meilleurs. » Fin de citation. Comment donc pouvons-nous être sûrs de prendre la meilleure décision ? Voici quelques-uns des principes que j'ai appris. Principe numéro 1, nous devons envisager les options en ne perdant pas de vue l'objectif final. Prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur notre vie et celle de nos êtres chers sans avoir une vision élargie de leur impact peut être risqué. Cependant, si nous cherchons à nous projeter dans l'avenir pour évaluer les conséquences possibles de nos choix, nous pouvons voir bien plus clairement le meilleur chemin à suivre dès à présent. Le fait de comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et ce que le Seigneur attend de nous dans cette vie, nous donnera la vision plus large dont nous avons besoin. Dans les Écritures, nous trouvons des exemples où le fait d'avoir cette vision élargie a apporté de la clarté quant à la voie à suivre. Moïse s'est entretenu avec le Seigneur face à face. Il a appris le plan du salut et a ainsi mieux compris son rôle de prophète du rassemblement d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse disant, « Je suis le Dieu Tout-Puissant et je te montrerai l'œuvre de mes mains. Et j'ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils. » Grâce à cette compréhension, Moïse fut capable de supporter longues années de tribulation dans le désert et de ramener Israël chez lui. Léhi, le prophète du livre de Mormon, a eu un songe dans ses visions. Il a appris sa mission de conduire sa famille à la terre promise. Il arriva que le Seigneur commanda à mon père, en songe, de prendre sa famille et de partir dans le désert. Et il quitta sa maison et le pays de son héritage et son or et son argent et ses choses précieuses. Léhi resta fidèle à la vision qu'il avait reçue malgré les difficultés du voyage, et bien qu'ils aient dû quitter leur vie confortable à Jérusalem. Le prophète Joseph est lui aussi un excellent exemple de cela. Grâce à ses nombreuses révélations, à commencer par la première vision, il fut capable d'accomplir sa mission qui était de rétablir toutes choses. Mais qu'en est-il pour nous ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous ? Il n'est pas nécessaire que nous voyions un ange pour comprendre les choses. Nous avons les Écritures, le Temple, les prophètes vivants, notre bénédiction patriarcale, les dirigeants inspirés et surtout le droit à la révélation personnelle pour nous guider dans nos décisions. Principe numéro 2, nous devons nous préparer aux difficultés à venir. Dans la vie, les meilleurs chemins sont rarement les plus faciles. Bien souvent, c'est exactement l'inverse. Là encore, nous pouvons nous référer aux exemples des prophètes que je viens de mentionner. Moïse, Léhi et Joseph Smith n'ont pas eu des parcours faciles, bien que leurs décisions aient été bonnes. Sommes-nous prêts à payer le prix de nos décisions? Sommes-nous prêts à quitter notre zone de confort pour accéder à des lieux meilleurs encore? Pour en revenir à l'expérience avec ma bénédiction patriarcale, je suis alors parvenu à la conclusion qu'il me fallait poursuivre mes études et postuler pour obtenir une bourse d'études dans une université américaine. Si j'étais sélectionné, il me faudrait quitter mon travail, vendre tout ce que nous possédions, aller vivre, étudiant boursier aux États-Unis pendant 2 ans. Les tests d'anglais et de qualification ont été les premiers obstacles à surmonter. Il a fallu 3 longues années de préparation, de nombreux refus et quelques espoirs déçus, avant que je sois finalement admis à l'université. Je me souviens encore de l'appel téléphonique du responsable des bourses d'études que j'ai reçu à la fin de ma 3e année. Il m'a dit, « Carlos, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes parmi les 3 finalistes cette année. » Il n'y avait qu'une seule bourse accordée à l'époque. La mauvaise nouvelle, c'est que les 2 autres candidats sont les fils de personnes influentes. Et puis, il y a vous. Je me suis hâté de répondre. Et moi, je suis un fils de Dieu. Par chance, les liens de parenté terrestres n'étaient pas le facteur déterminant. Et j'ai donc été accepté cette année-là. Nous sommes tous les enfants de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père. Il nous aime et a un plan pour nous. Nous ne sommes pas ici-bas pour perdre notre temps, vieillir et mourir. Dieu veut que nous progressions et atteignions notre potentiel. Selon le président Monson, je cite, « Chacun de vous, qu'il soit célibataire ou marié, quel que soit son âge, a la possibilité d'apprendre et de progresser. Développez vos connaissances intellectuelles et spirituelles jusqu'à ce que vous atteigniez la pleine mesure de votre potentiel divin. » Fin de citation. Principe numéro 3, nous devons transmettre cette vision à nos êtres chers. Léhi s'est efforcé à de nombreuses reprises d'aider Laman et Lemuel à comprendre l'importance du changement qu'ils opéraient. Du fait qu'ils ne partageaient pas la vision de leur père, ils murmurèrent tout au long du voyage. Néphi, lui, consulta le Seigneur afin de voir ce que son père avait vu. Et il arriva que lorsque moi, Néphi, j'eus entendu toutes les paroles de mon père sur les choses qu'il avait vues en vision, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Avec cette vision, Néphi fut non seulement capable de surmonter les épreuves du voyage, mais il guida également sa famille lorsque cela fut nécessaire. Lorsque nous engageons dans une voie, nos êtres chers seront également affectés par les conséquences de cette décision. Dans l'idéal, ils verront ce que nous voyons et partageront les mêmes convictions que nous. Il n'en est pas toujours ainsi, mais lorsque c'est le cas, le voyage est bien plus facile. Dans l'expérience personnelle que je viens d'illustrer, j'ai eu besoin du soutien de ma femme. Les enfants étaient encore petits, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Mais le soutien de ma femme a été déterminant. Je me souviens qu'au début, nous avons eu besoin de discuter attentivement ensemble ce changement de nos projets, jusqu'à ce que Monica se sente à l'aise et qu'elle décide de s'engager. Cette vision partagée lui a non seulement permis de soutenir le changement, mais également de devenir un élément essentiel de son succès. Je sais que le Seigneur a un plan pour nous. Il nous connaît. Il sait ce qui est mieux pour nous. Ce n'est pas parce que les choses vont bien que nous ne devrions pas, de temps à autre, nous demander s'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de meilleur. Les bénédictions promises s'accompliront-elles si nous continuons à vivre comme nous le faisons? Dieu vit. Il est notre Père. Le Sauveur Jésus-Christ vit. Et je sais que grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons trouver la force de surmonter nos épreuves au quotidien. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter ensemble « Compte les bienfaits ». Après le chant, nous entendrons Alan F. Packer et Hugo E. Martinez, des 70. Frère Martinez fera son discours en espagnol. Le chœur chantera ensuite « Je suis enfant de Dieu ». Après ce chant, nous entendrons Larry S. Catcher, des 70. Il sera suivi de David A. Bednar, du Collège des 12 apôtres.
This is the 184th.
Vous assistez à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Alors que j'étais un jeune scout de 12 ans, on m'a offert un complément que je désirais ardemment mon équipement scout. C'était une hachette avec un étui en cuir épais. Peu après, lors d'une randonnée de 2 jours, la nuit était tombée lorsque nous sommes arrivés au camp, mouillés et glacés par la neige épaisse qui couvrait la piste. Je n'avais qu'une idée en tête, allumer un grand feu. Je me suis attaqué immédiatement avec ma nouvelle hachette à un arbre tombé. J'étais contrarié parce qu'elle ne semblait pas très bien coupée. Dans ma frustration, j'ai cogné plus dur. Déçu, je n'ai rapporté au camp que quelques morceaux de bois. À la lumière du feu de quelqu'un d'autre, j'ai découvert le problème. Je n'avais pas retiré la hachette de son étui. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'étui en cuir épais était en lambeaux. La leçon, ne pensant qu'à couper, j'avais perdu de vue d'autres choses essentielles. Lorsque nous œuvrons à notre exaltation, nous devons travailler à toutes les conditions requises et ne pas nous laisser distraire en nous polarisant sur une ou deux d'entre elles ou sur d'autres choses qui n'ont pas de rapport. La quête du royaume de Dieu conduit à la joie et au bonheur. Si cela est nécessaire, nous devons être disposés à changer. Les petites rectifications fréquentes sont moins douloureuses et perturbantes que les grands changements de trajectoire. Il n'y a pas si longtemps, Sœur Packer et moi, nous sommes rendus dans plusieurs pays étrangers. Nous avions préparé nos passeports ainsi que d'autres documents. Nous nous étions fait vacciner, avions subi les examens médicaux et obtenu les visas et les tampons. À l'arrivée, les autorités ont inspecté nos papiers. Et après s'être assurés que toutes les conditions étaient remplies, nous ont laissé rentrer. Se qualifier pour l'exaltation, c'est comme se préparer à entrer dans un autre pays. Chacun de nous doit obtenir son passeport spirituel. Nous ne fixons pas les conditions requises, mais chacun de nous doit les respecter toutes. Le plan du salut contient toute la doctrine, toutes les lois, tous les commandements et toutes les ordonnances nécessaires pour que chacun se qualifie pour l'exaltation. Alors, par l'expiation de Jésus-Christ, tout le genre humain peut être sauvé. L'Église nous aide, mais ne peut pas nous qualifier à notre place. Nous qualifier pour l'exaltation devient la quête de toute notre vie. Le Christ a organisé son Église pour nous aider. Il a appelé 15 hommes que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs pour guider l'Église et instruire le peuple. Le pouvoir et l'autorité de la première présidence et du collège des 12 apôtres sont égaux à ceux du doyen des apôtres désigné comme président de l'Église. Les 70 sont appelés à les aider. Ce ne sont pas les dirigeants qui ont défini les conditions requises pour l'exaltation, c'est Dieu. Ces dirigeants sont appelés à enseigner, expliquer, exhorter et même mettre en garde afin que nous maintenions le cap. Le manuel d'instruction explique, pour réaliser son objectif d'aider les personnes et les familles à se qualifier pour l'exaltation, l'Église se concentre sur les responsabilités que Dieu a données, lui a données. Ces dernières comprennent le fait d'aider les membres à vivre l'Évangile de Jésus-Christ, à rassembler Israël par l'œuvre missionnaire, à se soucier des pauvres et des nécessiteux, et à rendre possible le salut des morts en construisant des temples et en accomplissant des ordonnances par procuration. Ces 4 points et tous les autres préceptes, commandements et ordonnances ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ et en faisant chacune de ces choses, nous ajoutons les tampons nécessaires dans notre passeport spirituel. Pendant cette conférence, on nous parle de changements qui nous aideront tous à être mieux préparés. La famille est le centre du plan du salut et est peut-être la raison pour laquelle on l'appelle aussi le grand plan du bonheur. Le président Packer a dit, « L'objectif ultime de toute activité dans l'Église est qu'un homme, sa femme et leurs enfants soient heureux au foyer. » Le président Kimball a dit, « Notre succès, aussi bien au plan privé qu'à celui de l'Église, sera déterminé en grande partie par la fidélité avec laquelle nous nous appliquons à vivre l'Évangile au foyer. La pratique de l'Évangile au foyer comprend aussi l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale. Cela devrait être bien plus qu'une activité familiale, plus une activité familiale qu'une activité de l'Église. La première présidence et le Collège des 12 ont remis l'accent sur l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale. Votre réaction à cette demande augmentera votre joie et votre bonheur personnel et en famille. Dans les Doctrines et Alliances, nous lisons, « Le grand jour du Seigneur est proche. C'est pourquoi amenons, nous, l'Église, le peuple et les saints des derniers jours, une offrande avec justice au Seigneur et présentons dans son Saint-Temple un livre contenant les annales de nos morts qui sera entièrement digne d'être reçu. Ce livre sera préparé à partir des registres de noms et d'ordonnances contenus dans la base de données de l'arbre familial de l'Église. Je vérifie et j'ajoute des documents à cette base de données parce que je veux que le nom de toutes les personnes que j'aime soit dans le livre. Pas vous? Dans les Doctrines et Alliances, section 128, nous lisons « Car sans nos ancêtres, nous ne pouvons parvenir à la perfection, et sans nous, ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfection. » L'histoire familiale n'est pas que de la généalogie, des règles, des noms, des dates et des lieux. Elle ne consiste pas uniquement à se concentrer sur le passé. L'histoire familiale comprend également le présent, où nous créons notre propre histoire. Elle comprend l'avenir, car nous façonnons l'histoire future par l'intermédiaire de nos descendants. Par exemple, une jeune mère qui raconte des anecdotes de sa famille et montre des photos à ses enfants fait de l'histoire familiale. Comme la Sainte Cène, la présence aux réunions, la lecture des Écritures et la prière, l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale devrait être une composante régulière de notre culte personnel. La réaction de nos jeunes et d'autres personnes aux invitations des prophètes est inspirante et prouve que cette œuvre peut et doit être accomplie par tous les membres à n'importe quel âge. Quentin L. Cook l'a expliqué, nous avons maintenant la doctrine, les temples et la technologie. Il est maintenant beaucoup plus facile de participer à cette œuvre. La seule limite est le nombre de membres qui lui accordent la priorité. Elle exige encore du temps et des sacrifices. Mais tout le monde peut y participer, et avec plus de facilité qu'il y a seulement quelques années. Pour aider les membres, l'Église a collecté des documents et fourni des outils afin que la plus grande partie du travail puisse se faire chez nous ou dans les bâtiments de l'Église et dans le Temple. La plupart des barrières sont tombées. Quelle que soit l'image que vous en avez héritée du passé, cette activité est différente maintenant. Il reste cependant une barrière que l'Église ne peut pas faire tomber. C'est l'hésitation de chacun à faire cette œuvre. Cela ne demande qu'une décision et quelques efforts. Cela ne nécessite pas de grandes plages horaires. Un peu de temps investi régulièrement permettra de goûter à la joie de l'œuvre. Prenez la décision de sauter le pas, d'apprendre et de demander de l'aide. On vous la donnera. Les noms que vous trouvez et apportez au temple deviendront les documents pour le livre. Malgré l'augmentation spectaculaire de la participation des membres, nous constatons que relativement peu d'entre eux sont régulièrement occupés à faire des recherches et des ordonnances du temple pour leur famille. Cela exige un changement dans nos priorités. Ne luttez pas contre ce changement. Saisissez l'occasion. Le changement fait partie du grand plan du bonheur. Cette œuvre doit être accomplie, non pour le profit de l'Église, mais pour nos morts et pour nous-mêmes. Nos ancêtres décédés et nous avons besoin des tampons dans notre passeport spirituel. L'union et le rattachement complet de notre famille à travers les générations ne peut avoir lieu que dans les temples, grâce aux ordonnances de scellement. Les étapes sont simples, trouvez simplement un nom et apportez-le au temple. Au fil du temps, vous serez en mesure d'aider d'autres personnes à faire de même. À quelques exceptions près, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Des bénédictions tangibles accompagnent cette œuvre. Beaucoup de parents et de dirigeants s'inquiètent de la situation mondiale actuelle et de son impact sur la famille et sur les jeunes. David Abednar nous a dit, « J'invite les jeunes de l'Église à apprendre ce qu'est l'esprit d'Élie et à le ressentir. Je vous promets que vous serez protégés contre l'influence de plus en plus forte de l'adversaire. Si vous participez à cette œuvre sacrée et l'aimez, vous serez protégés pendant votre jeunesse et toute votre vie. » Frères et sœurs, il est temps de sortir votre hachette de son étui et de vous mettre au travail. Nous ne devons pas sacrifier notre exaltation et celle de notre famille à la poursuite de centres d'intérêt moins importants. C'est l'œuvre de Dieu qui doit être accomplie par les membres comme par les non-membres, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Pour finir, je cite la première strophe du Cantique 324 en changeant un mot. Élevez-vous, élevez-vous, ô homme de Dieu. Terminez-en avec les choses futiles. Donnez-vous cœur, âme, esprit et force au service du roi des rois. Jésus-Christ est le chemin. Il est le roi. Je témoigne de lui au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, nous avons l'occasion et la bénédiction de servir. Depuis que je suis membre, j'ai eu de nombreuses occasions de servir. Comme Udine Falabella, Père Danrique Falabella, avait l'habitude de dire, celui qui sert, sert à quelque chose. Celui qui ne sert pas, n'est bon à rien. Fin de citation. Voilà une parole que nous devrions garder en tête et dans le cœur. Tandis que je cherchais à être guidé pendant que je servais, j'ai trouvé du réconfort dans le souvenir que le Seigneur donne la priorité à la personne et à la famille. L'amour et l'attention qu'il porte à l'individu m'ont enseigné qu'il a conscience de la grande valeur de chacun des enfants de notre Père Céleste. Et qu'il est essentiel de nous assurer que chaque individu est servi et fortifié par l'Évangile de Jésus-Christ. Dans les Écritures, nous lisons « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir et que vous m'amenez ne serait-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Chaque âme a une grande valeur aux yeux de Dieu, car nous sommes ses enfants, et nous avons le potentiel de devenir comme lui. L'amour de Jésus-Christ doit être notre guide pour que nous devenions attentifs aux besoins des personnes à qui nous pouvons venir en aide d'une façon ou d'une autre. Les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ nous montrent la voie à suivre. Et c'est ainsi que débute notre ministère personnel, en prenant conscience des besoins, puis en cherchant à y répondre. Comme l'a dit Linda K. Burton, présidente générale de la Société de Secours, observez d'abord, puis servez. Le président Monson est un excellent exemple de ce principe. En 2005, alors qu'il présidait une conférence de dirigeants de la prêtrise à Porto Rico, il a montré comment Sauveur et ses serviteurs rendent service par leur ministère personnel. À la fin de cette merveilleuse réunion, le président Monson s'est mis à saluer tous les dirigeants de la prêtrise de l'Assemblée. Quand, soudain, il s'est aperçu que l'un d'entre eux observait la scène de loin, seul dans son coin. Le président Monson s'est écarté du groupe pour aller parler à ce frère. Avec beaucoup d'émotion, José Sayas lui a dit que c'était un miracle qu'il a abordé et que c'était la réponse aux prières que sa femme, Yolanda, et lui avaient faites avant la réunion. Il a expliqué que sa fille était gravement malade et qu'il avait sur lui une lettre de sa femme qu'elle lui avait demandé de lui remettre. Frère Sayas avait répondu alors à sa femme que ce serait impossible, car le président Monson serait trop occupé. Le président Monson a écouté attentivement l'histoire et a demandé la lettre en question, qu'il a lue silencieusement. Il l'a mise dans l'une des poches de son costume et a dit à Frère Sayas qu'il s'occuperait de leur requête. C'est ainsi que cette famille était touchée par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son serviteur. Et je crois que ce qu'a dit le Sauveur dans la parole du bon Samaritain s'applique à nous. Va, et toi fais de même. En 1998, l'ouragan George s'est abattu sur Porto Rico, causant d'énormes dégâts. Sœur Martinez, nos 5 enfants et moi avons survécu à cette terrible tempête et à ces vents violents en restant dans notre maison. Cependant, nous avons passé 2 semaines sans eau courante ni électricité. Quand nos réserves d'eau se sont épuisées, il était difficile de s'en procurer. Je n'oublierai jamais les frères qui nous ont servi en nous fournissant ce précieux liquide, tout comme je n'oublierai pas l'amour des sœurs qui nous ont également rendu service. Herman Colon est venu chez nous avec un grand conteneur d'eau à l'arrière de sa camionnette. Il nous a dit qu'il le faisait parce qu'il savait que nous avions des petits-enfants qui en avaient besoin. 2 jours plus tard, les frères Munoz et Gomez ont chargé 3 grands réservoirs d'eau sur le plateau de leur camion. Ils sont arrivés à l'improviste chez nous et ont rempli d'eau potable toutes les bouteilles qu'ils pouvaient trouver, ainsi que celles de nos voisins. Leur ministère personnel a répondu à nos prières. Le visage de ces 3 frères reflétait l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Et leur service, ou en d'autres termes, leur ministère personnel, nous a apporté bien plus que de l'eau potable. Chaque fils ou chaque fille de Dieu a besoin de savoir que des gens se préoccupent de son bien-être. C'est quelque chose d'essentiel. Je vous témoigne que notre Père Céleste et Jésus-Christ nous connaissent individuellement et personnellement. De ce fait, ils mettent à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour que nous ayons la possibilité d'atteindre notre potentiel divin. Ils placent sur notre route des gens qui nous viendront en aide. Ainsi, en devenant des instruments entre leurs mains, nous pouvons être guidés par révélation et servir les personnes dans le besoin. C'est de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ touchera l'ensemble des enfants de notre Père Céleste. Le bon berger rassemblera ses brebis. Il le fera une par une, tandis qu'elles feront bon usage de leur libre arbitre moral, après avoir entendu la voix de ses serviteurs qui les auront servis. Alors, elles reconnaîtront sa voix et le suivront. Ce type de ministère personnel fait partie intégrante du respect de notre alliance du baptême. De même, être un disciple exemplaire de Jésus-Christ constitue notre meilleure carte de visite pour les personnes à qui nous pouvons faire connaître l'Évangile. En ouvrant la bouche et en faisant connaître l'Évangile rétabli, nous devenons 16 assistants bergers chargés de nourrir les brebis de ses pâturages et les agneaux de son troupeau. Nous devenons les faibles et les simples pêcheurs d'hommes. Notre service et notre ministère personnel ne se limitent pas aux vivants de ce monde. Nous pouvons également œuvrer pour les morts, pour les personnes qui sont dans le monde des esprits et qui, durant leur existence mortelle, n'ont pas eu l'occasion de recevoir les ordonnances salvatrices de l'Évangile. Nous pouvons également tenir un journal intime et écrire notre histoire familiale afin de tourner le cœur des vivants vers les vivants, ainsi que vers leurs ancêtres. C'est ainsi que nous unissons notre famille, génération après génération, en des liens éternels. Ce faisant, nous devenons des libérateurs sur la montagne de Sion. C'est une occasion unique d'être des instruments entre les mains du Seigneur. Et ce, dans notre mariage, dans notre famille, avec nos amis et nos semblables. C'est notre ministère personnel de vrais disciples de Jésus-Christ. Toutes les nations sont assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous était préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif ? Et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ? Et t'avons-nous recueilli ? Ou nu ? Et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison ? Et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Je prie pour que nous le fassions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
As you live in the earth, you
Frères et sœurs, les décisions que nous prenons dans cette vie ont de grandes répercussions sur notre vie éternelle. Des forces visibles et invisibles influencent nos choix. Je l'ai en compris il y a environ 5 ans, d'une manière qui a failli me coûter cher. Nous voyagions avec des membres de ma famille et des amis dans le sud d'Oman. Nous avions décidé de nous détendre sur une plage au bord de l'océan Indien. Peu après notre arrivée, notre fille de 16 ans, Nelly, a demandé si elle pouvait aller à la nage jusqu'à ce qu'elle croyait être un banc de sable. Remarquant les eaux agitées, je lui ai dit que j'allais y aller en premier, pensant qu'il pouvait y avoir des courants dangereux. Après avoir nagé un peu de temps, j'ai demandé à ma femme si j'étais près du banc de sable. Elle m'a répondu « Tu l'as dépassé de très loin ». Sans le savoir, j'avais été pris dans un contre-courant qui m'attirait rapidement vers le large. Je ne savais pas quoi faire. La seule chose à laquelle j'ai pu penser, c'était de faire demi-tour et de nager vers la rive. Ce qui était exactement la mauvaise chose à faire. Je me sentais impuissant. Des forces que je ne pouvais contrôler me tiraient vers le large. Pour envenimer les choses, ma femme, confiante dans mon jugement, m'avait suivi. Frères et sœurs, j'ai pensé qu'il y avait des fortes chances pour que je ne survive pas, et que ma décision entraîne aussi la mort de ma femme. Après de grands efforts, et à ce que je crois être une intervention divine, nos pieds ont réussi à toucher un fond sablonneux, et nous avons pu retourner sains et saufs en marchant jusqu'à nos amis et notre famille. Dans cette vie terrestre, il y a de nombreux courants dont nous certains sont sûrs, d'autres pas. Spencer W. Kimball a enseigné qu'il existe des forces dans notre vie qui ressemblent beaucoup aux courants invisibles de l'océan. Ces forces sont réelles. Nous ne devons jamais les ignorer. Je vais vous parler d'un autre courant, un courant divin, qui est devenu une grande bénédiction dans ma vie. Je suis un converti à l'Église. Avant ma conversion, j'avais pour ambition de faire du ski. Par conséquent, après mes études secondaires, j'ai déménagé en Europe pour réaliser ce souhait. Après quelques mois de ce qui me semblait être une vie idéale, j'ai ressenti que je devais partir. À cette époque, je ne comprenais pas la source de ce sentiment, mais j'ai choisi de le suivre. Je me suis retrouvé à Provo, en Utah, avec quelques bons amis qui, comme moi, étaient membres d'une autre église. À Provo, j'ai rencontré des gens qui avaient une vie très différente de la mienne. Je me suis senti attiré par eux, sans savoir pourquoi. Au début, j'ai résisté à ces sentiments, mais j'ai rapidement trouvé une paix et un réconfort qui m'étaient inconnus. J'ai commencé à suivre un courant différent, un courant qui m'a fait connaître un Père céleste aimant et son Fils Jésus-Christ. Je me suis fait baptiser avec mes amis en 1972. Ce nouveau courant que j'ai choisi de suivre, l'évangile de Jésus-Christ, a donné une direction et un sens à ma vie. Cela n'a cependant pas été sans difficulté. Tout était nouveau pour moi. Parfois, j'étais perdu et désorienté. Mes amis et ma famille soulevaient des questions et des problèmes. Il fallait que je fasse un choix. Certaines de leurs questions suscitaient le doute et l'incertitude. Le choix que je devais faire était important. À qui pouvais-je m'adresser pour trouver des réponses? Beaucoup de monde voulait me convaincre de l'erreur de mes voies, des contre-courants déterminés à m'éloigner du courant paisible qui était devenu une merveilleuse source de bonheur. J'ai appris très clairement le principe selon lequel il y a de l'opposition en toute chose, qu'il est important d'agir par moi-même et de ne pas laisser à d'autres le soin de décider pour moi. Je me suis demandé pourquoi me détournerais-je de ce qui m'a apporté un si grand réconfort. Le Seigneur l'a rappelé à Oliver Cowdery. « N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet ?» Mon expérience était similaire. Je me suis donc tourné, avec encore plus de détermination, vers mon Père Céleste aimant, vers les Écritures et vers des amis de confiance. J'avais toujours beaucoup de questions sans réponse. Comment pouvais-je traiter l'incertitude qu'elle suscitait ? Au lieu de leur permettre de détruire la paix et le bonheur qui s'étaient manifestés dans ma vie, j'ai choisi de les laisser de côté pendant quelque temps, confiant qu'au temps voulu par le Seigneur, il me révélerait toutes choses. J'ai trouvé de réconfort dans ce qu'il a déclaré au prophète Joseph. Voici, vous êtes de petits enfants et vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Vous devez progresser en grâce et dans la connaissance de la vérité. J'ai choisi de ne pas rejeter ce que je savais être vrai pour suivre un courant inconnu et douteux, un contre-courant potentiel. Comme l'a déclaré N. Eldon Tanner, comme il serait plus sage et bien meilleur que l'homme accepte les vérités simples de l'Évangile et qu'il accepte par la foi les choses qu'il ne peut pas comprendre. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de place pour un questionnement honnête ? Demandez au jeune garçon qui s'est isolé dans un bosquet sacré, avec le désir de savoir à laquelle de toutes les églises il devait se joindre. Quand vous tenez les Doctrines Alliance dans votre main, sachez que tout ce qui a été révélé dans ce recueil sacré est le résultat d'une humble quête de la vérité. Comme l'a découvert Joseph, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée. En posant des questions sincères et en cherchant des réponses divines, nous apprenons ligne sur ligne, précepte sur précepte, en progressant en connaissance et en sagesse. La question n'est pas « y a-t-il de la place pour un questionnement honnête ?» mais « à qui dois-je m'adresser pour trouver la vérité quand des questions surviennent ?» Serais-je suffisamment sage pour me tenir fermement à ce que je sais être vrai en dépit des questions que je me pose ? Je témoigne qu'il y a une source divine, quelqu'un qui connaît toutes choses, la fin depuis le commencement. Toutes choses sont présentes pour lui. Les Écritures témoignent qu'il ne marche pas dans des sentiers tortueux. Il ne dévie pas de ce qu'il a dit. Dans notre voyage, dans la condition mortelle, nous ne devons jamais penser que nos choix n'affectent que nous. Récemment, un jeune homme est venu chez moi. Il avait un bon esprit, mais j'ai perçu qu'il n'était pas totalement pratiquant dans l'Église. Il m'a dit qu'il avait grandi dans un foyer centré sur l'Évangile, jusqu'à ce que son père trompe sa mère, ce qui a entraîné leur divorce et a poussé ses frères et sœurs à remettre l'Église en cause et à s'en éloigner. J'avais le cœur lourd en discutant avec ce jeune père qui maintenant, affecté par les choix de son père, élevait ses précieux esprits sans les bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. Un autre homme de ma connaissance, autrefois membre fidèle de l'Église, se posait des questions concernant certains points de doctrine. Au lieu de s'adresser à notre Père Céleste, il a choisi de ne s'appuyer que sur des sources profanes pour être guidé. Son cœur s'est tourné dans la mauvaise direction, à la recherche de ce qui semblait être les honneurs des hommes. Son orgueil a sans doute été flatté, du moins temporairement, mais il a été retranché du pouvoir des cieux. Au lieu de trouver la vérité, il a perdu son témoignage et a emmené avec lui beaucoup de membres de sa famille. Ces deux hommes se sont fait piéger par des contre-courants invisibles et ont entraîné beaucoup d'âmes derrière eux. À l'inverse, je pense à LaRue et Louise Miller, les parents de ma femme, qui, bien qu'ils n'aient jamais eu de biens matériels en abondance, ont choisi non seulement d'enseigner la doctrine pure de l'Évangile rétablie à leurs enfants, mais également de la vivre chaque jour de leur vie. Ce faisant, ils ont apporté à leur postérité la bénédiction des fruits de l'Évangile et l'espérance en la vie éternelle. Ils ont établi chez eux un modèle dans lequel la prêtrise était respectée, où l'amour et l'harmonie abondaient et où les principes de l'Évangile dirigeaient leur vie. Louise et LaRue, côte à côte, ont démontré ce que signifiait avoir un modèle de vie calqué sur Jésus-Christ. Leurs enfants pouvaient clairement voir le courant de la vie qui leur apporterait la paix et le bonheur, et ils ont choisi en conséquence. Comme l'a enseigné le président Kimball, si nous pouvons créer un courant puissant et ferme menant à notre but d'une vie juste, nous pouvons, nous et nos enfants, être portés vers l'avant malgré les vents contraires des vicissitudes, des déceptions et des tentations. Nos choix comptent-ils ? N'affectent-ils que nous ? Avons-nous fixé notre cap fermement dans le courant éternel de l'Évangile rétabli? De temps en temps, une image me hante. Que se serait-il passé ce jour de septembre, alors que nous nous détendions sur une plage de l'océan Indien, si j'avais dit à ma fille Nelly, « Oui, vas-y, nage jusqu'au banc de sable. » Ou si elle aussi avait suivi mon exemple et avait été incapable de revenir à la nage. Que se passerait-il si je devais vivre en sachant que mon exemple a fait qu'elle a été emportée par un courant au large sans jamais revenir? Les courants que nous choisissons de suivre sont-ils importants? Notre exemple est-il important? Notre Père Céleste nous a accordé le don divin du Saint-Esprit afin de guider nos choix. Il nous a promis de nous donner l'inspiration et la révélation si nous vivons de sorte à être dignes de les recevoir. Je vous invite à tirer parti de ce don divin et à examiner vos choix en vous posant la question, Mes décisions sont-elles fermement enracinées dans le sol fertile de l'Évangile de Jésus-Christ? Je vous invite à faire tous les ajustements nécessaires, petits ou grands, afin de vous assurer que vous et vos êtres chers recevrez les bénédictions éternelles du plan de notre Père Céleste. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoigne que les alliances que nous contractons avec lui sont sacrées et saintes. Nous ne devons jamais prendre les choses sacrées à la légère. Puissions-nous rester fidèles à jamais. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mon message s'adresse expressément aux personnes qui ne sont pas membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je vais traiter d'une question fondamentale que beaucoup d'entre vous peuvent se poser. Pourquoi les saints des derniers jours sont-ils si désireux de me parler de leur croyance et de m'inviter à découvrir leur Église? Je prie pour que l'Esprit du Seigneur m'aide à communiquer efficacement ma réponse à cette question importante et vous aide à la comprendre clairement. Les disciples dévoués de Jésus-Christ ont toujours été et seront toujours des missionnaires vaillants. Un missionnaire est un disciple du Christ qui témoigne qu'il est le Rédempteur et proclame les vérités de son Évangile. L'Église de Jésus-Christ a toujours été et sera toujours une Église missionnaire. Les membres de l'Église du Sauveur ont chacun accepté l'obligation solennelle d'aider à accomplir la mission divine donnée par le Seigneur à ses apôtres, comme cela est rapporté dans le Nouveau Testament. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les saints des derniers jours prennent au sérieux cette responsabilité d'instruire tous les gens de tous les pays sur le Seigneur Jésus-Christ et son Évangile rétabli. Nous croyons que l'Église fondée par le Sauveur autrefois a été rétablie par lui sur la terre dans les derniers jours. La doctrine, les principes, l'autorité de la prêtrise, les ordonnances et les alliances de son Évangile se trouvent aujourd'hui dans son Église. Quand nous vous invitons à assister aux réunions de l'Église avec nous ou à apprendre avec les missionnaires à plein temps, nous n'essayons pas de vous vendre un produit. Nous, membres de l'Église, nous ne recevons pas de prix ou de points de bonus dans un concours céleste. Nous ne cherchons pas simplement à augmenter la taille numérique de l'Église. Et surtout, nous n'essayons pas de vous forcer à adopter nos croyances. Nous vous invitons à entendre les vérités rétablies de l'Évangile de Jésus-Christ pour que vous puissiez étudier, méditer, prier et savoir par vous-même si ce que nous vous disons est vrai. Certains d'entre vous répondront peut-être, « Mais je crois déjà en Jésus et je suis ses enseignements » ou « Je ne suis pas sûr que Dieu existe vraiment ». Les invitations que nous vous adressons ne sont pas une tentative de porter atteinte à votre tradition religieuse ou à votre expérience de la vie. Apportez tout ce que vous savez être vrai, bon et digne d'éloge, et mettez notre message à l'épreuve, tout comme Jésus a invité deux de ses disciples à venir et voir. De même, nous vous invitons à venir et voir si l'Évangile rétabli de Jésus-Christ amplifie et enrichit ce que vous croyez déjà être vrai. En effet, nous nous sentons investis de la responsabilité solennelle de porter ce message à chaque nation, tribu, langue et peuple. Et c'est précisément ce que nous faisons avec aujourd'hui plus de 88 000 missionnaires qui œuvrent dans plus de 150 États souverains dans le monde entier. Ces jeunes hommes, jeunes femmes et couples d'âge mûr remarquables aident les membres de notre Église à s'acquitter du mandat divin et de la responsabilité personnelle qu'a chacun de nous de proclamer l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Mais notre empressement à déclarer ce message ne résulte pas seulement d'un sens du devoir spirituel. Notre désir de vous parler de l'évangile rétabli de Jésus-Christ traduit l'importance que ces vérités ont pour nous. Je crois que le meilleur moyen que je puisse employer pour décrire pourquoi nous sommes si directs dans nos efforts pour vous expliquer nos croyances est de relater une expérience que ma femme et moi avons vécue il y a de nombreuses années avec deux de nos fils. Un soir, Suzanne et moi, nous étions près d'une fenêtre chez nous et regardions deux de nos jeunes garçons qui jouaient dehors. Au cours de leurs aventures, le plus jeune des deux a été légèrement blessé dans un petit accident. Nous nous sommes vite rendus compte qu'il n'était pas gravement blessé et nous avons décidé de ne pas lui porter secours immédiatement. Nous voulions voir si nos discussions familiales sur la bonté fraternelle avaient été assimilées. Ce qui s'est passé ensuite a été intéressant et instructif. Le frère aîné a consolé le plus jeune et l'a soigneusement aidé à rentrer dans la maison. Suzanne et moi, nous sommes postés près de la cuisine de manière à pouvoir voir ce qui allait se passer ensuite. Et nous étions prêts à intervenir immédiatement si d'autres accidents corporels semblaient probables ou si un accident grave était imminent. Le frère aîné a traîné une chaise jusqu'à l'évier. Il a grimpé sur la chaise, a aidé son frère à y grimper, a ouvert le robinet et a entrepris de déverser une grande quantité de liquide vaisselle sur le bras égratigné de son petit frère. Il a fait de son mieux pour enlever délicatement la saleté. La réaction du petit frère à ce procédé ne peut être décrire fidèlement qu'en employant le langage des Écritures. Et ils auront sujet de hurler et de pleurer et de se lamenter et de grincer des dents. Et comme ce petit garçon a hurlé. Une fois le brossage fini, le bras a été soigneusement séché avec une serviette. Finalement, les hurlements ont cessé. Le frère aîné a ensuite grimpé sur le plan de travail de la cuisine, a ouvert un placard et a trouvé un tube neuf de pommade médicale. Les égratignures de son petit frère n'étaient pas importantes, mais le frère aîné a appliqué presque tout le contenu du tube sur la totalité du bras blessé. Les hurlements n'ont pas repris, car le petit frère aimait manifestement l'effet apaisant de la pommade beaucoup plus que l'effet nettoyant du liquide vaisselle. Le frère aîné est retourné au placard où il avait trouvé la pommade et a trouvé une boîte neuve de pansements stériles. Il a alors déballé et appliqué des pansements sur tout l'avant-bras de son frère, du poignet jusqu'au coude. L'urgence traitée et la cuisine couverte de pommade et d'emballage, les deux petits garçons ont sauté de la chaise, souriants et heureux. Ce qui s'est passé ensuite est très important. Le frère blessé a ramassé les pansements restants et le tube de pommade presque vide. Puis il est retourné dehors. Il a vite cherché ses amis et a commencé à appliquer de la pommade et des pansements sur leurs bras. Suzanne et moi avons tous deux été frappés par la sincérité, l'enthousiasme et la rapidité de sa réaction. Pourquoi le petit a-t-il fait ce qu'il a fait? Remarquez qu'il a immédiatement et instinctivement voulu donner à ses amis précisément ce qu'il avait aidé quand il était blessé. Il n'a pas eu besoin qu'on le sollicite, l'incite ou l'aiguillonne pour agir. Son désir de partager était la conséquence naturelle d'une expérience personnelle très utile et bénéfique. Beaucoup d'entre nous qui sommes adultes nous comportons exactement de la même façon quand nous trouvons un traitement ou un médicament qui soulage d'une douleur dont nous souffrons depuis longtemps, ou quand nous recevons un conseil qui nous permet d'affronter des difficultés avec courage et des situations déroutantes avec patience. Parler avec d'autres personnes de choses qui sont des plus importantes pour nous ou qui nous ont aidés n'est pas du tout inhabituel. Cette façon de faire est particulièrement évidente lorsqu'il s'agit de sujets spirituels d'une grande importance ou lourdes conséquences. Par exemple, un récit tiré d'un volume d'écriture appelé le Livre de Mormon parle d'un rêve que reçut un ancien prophète dirigeant nommé Léhi. L'élément central du rêve de Léhi est l'arbre de vie, qui est une représentation de l'amour de Dieu, qui est la plus désirable de toutes les choses et la plus joyeuse pour l'âme. Léhi explique, « Et il arriva que je m'avançais et que j'en mangeais du fruit. Et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais jamais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc, au point de dépasser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. C'est pourquoi je commençais à désirer que ma famille en mangeât aussi. » La plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour ses enfants est le ministère terrestre, le sacrifice expiatoire et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'arbre peut être considéré comme un symbole des bénédictions de l'expiation du Sauveur. La réaction instantanée de Léhi quand il a eu mangé du fruit de l'arbre et éprouvé une grande joie a été un désir accru d'en donner à sa famille et de la servir. Ainsi, en se tournant vers le Christ, il s'est aussi tourné vers les autres dans l'amour et le service. Un autre épisode important du Livre de Mormon décrit ce qui est arrivé à un homme nommé Enos, après que Dieu a entendu sa supplique fervente et y a répondu. Il dit, « Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je l'implorais en une prière et une supplication fervente pour mon âme. Et je l'implorais toute la journée. Oui, et lorsque vint la nuit, j'élevai toujours très haut la voix, de sorte qu'elle atteignit les cieux. Et une voix me parvint disant, « Enos, tes péchés te sont pardonnés, et tu seras béni. » Et moi, Enos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. Et je dis, « Seigneur, comment cela se fait-il » Et il me dit, « À cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. C'est pourquoi, va, ta foi t'a guéri. » Or, il arriva que lorsque j'eus entendu ces paroles, je commençais à éprouver du désir pour le bien-être de mes frères, les Néphites. C'est pourquoi je déversai mon âme tout entière à Dieu pour eux. Quand Enos s'est tourné vers le Seigneur, d'un cœur pleinement résolu, sa préoccupation pour le bien-être de sa famille, de ses amis et de ses compagnons a augmenté simultanément. La leçon permanente que nous enseignent ces deux épisodes est qu'il est indispensable de connaître d'abord dans notre propre vie les bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ, si nous voulons pouvoir accomplir un service sincère et authentique qui va bien au-delà des simples gestes. Tout comme Léhi, Enos et notre petit garçon dans l'histoire que j'ai racontée, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons ressenti l'angoisse associée à l'incertitude spirituelle et au péché. Nous avons aussi ressenti la purification, la paix de conscience, la guérison et le renouveau spirituel et l'aide qui ne s'obtiennent qu'en apprenant et en vivant les principes de l'Évangile du Sauveur. L'expiation de Jésus-Christ fournit l'argent purificateur nécessaire pour être rendu pur et propre, le baume apaisant pour guérir les blessures spirituelles et ôter la culpabilité et la protection qui nous permet d'être fidèles dans les bons moments comme dans les mauvais. À vous, proches parents et amis qui n'êtes pas membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, j'ai tenté d'expliquer les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes des missionnaires. La vérité absolue existe dans ce monde qui méprise et rejette de plus en plus les absolus. Dans un jour à venir, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus le Christ est absolument le Fils unique du Père éternel. Nous, membres de son Église, nous témoignons qu'il vit et que son Église a été rétablie dans sa plénitude en ces derniers jours. Les invitations que nous vous adressons d'écouter notre message et de le mettre à l'épreuve sont le fruit des effets positifs que l'Évangile de Jésus-Christ a eu dans notre vie. Il peut nous arriver d'être maladroits, brusques ou obstinés dans nos tentatives. Notre simple désir est de vous faire connaître les vérités qui sont de la plus grande valeur à nos yeux. En tant qu'apôtre du Seigneur, je rends témoignage de sa divinité et de sa réalité, de toute l'énergie de mon âme, et je vous invite à venir et voir au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
À la fin de cette conférence, nous exprimons nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment pour préparer ces sessions. Nous remercions les personnes qui ont pris la parole et celles qui ont interprété la musique édifiante. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur clora cette réunion en chantant « We ever pray for thee ». Ensuite, John S. Tanner, premier conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. La conférence sera alors terminée.
My brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous venons de faire l'expérience de deux belles journées avec des messages inspirés. Nos cœurs ont été touchés. Notre foi a été fortifiée. Alors que nous avons ressenti l'influence de l'Esprit présent pendant ces sessions de la conférence. Au moment de conclure celle-ci, nous remercions notre Père Céleste des nombreuses bénédictions qu'il nous a données. Nous avons été édifiés et inspirés par la belle musique qui a été interprétée durant les sessions. Les prières qui ont été faites nous ont rapprochés des cieux. J'adresse les remerciements sincères de toute l'Église à nos frères qui ont été relevés à l'occasion de cette conférence. Ils nous manqueront. Leur contribution à l'œuvre du Seigneur a été énorme et se fera sentir tout au long des générations à venir. Puissions-nous rentrer chez nous avec dans le cœur la résolution d'être un peu meilleur que dans le passé. Puissions-nous être un peu plus gentils et attentionnés. Puissions-nous tendre la main pour nous rendre utiles, non seulement à nos amis membres, mais aussi aux personnes qui ne sont pas de notre foi. J'espère que dans nos interactions avec elles, nous leur témoignerons du respect. Il y a des personnes qui sont chaque jour aux prises avec des difficultés. Montrons-leur que nous nous soucions d'elles et tendons-leur une main secourable. Si nous prenons soin les uns des autres, nous serons bénis. Puissions-nous nous souvenir des personnes âgées et de celles qui sont confinées chez elles. Si nous prenons le temps de leur rendre visite, elles sauront que nous les aimons et qu'elles ont de la valeur. Puissions-nous suivre le commandement d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. Puissions-nous être des personnes honnêtes et intègres qui cherchent à faire ce qui est juste en tout temps et en toutes circonstances. Puissions-nous être des disciples fidèles du Christ, des exemples de droiture, et devenir ainsi des flambeaux dans le monde. Mes frères et sœurs, je vous remercie de vos prières en ma faveur. Elles me fortifient et me soutiennent, tandis que je m'efforce de tout mon cœur et de toutes mes forces de faire la volonté de Dieu, de le servir et de vous servir. Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de bénir chacun d'entre vous. Puissiez-vous, vous qui êtes loin de chez vous, rentrez en toute sécurité et trouvez tout en ordre. puissions-nous tous méditer sur les vérités que nous avons entendues et puissent-elles nous aider à devenir des disciples encore plus vaillants que nous l'étions au début de cette conférence. Jusqu'à ce que nous nous revoyions dans 6 mois, je demande au Seigneur de vous accorder ses bénédictions, ainsi qu'à nous tous. Et je le fais en son saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Our beloved Father in heaven,
notre cher Père céleste, nous te prions pour notre bien-aimé prophète. Nous te remercions pour lui. Veuille prolonger sa vie, le bénir et bénir tous les membres de l'Église dans le monde entier, et qu'il exprime son grand amour pour lui. Nous sommes si reconnaissants, Père, de ton Saint-Esprit qui a été présent à cette conférence. Nous avons beaucoup appris, et maintenant nous allons vivre ce que nous avons appris. Aide-nous à agir, à appliquer ces enseignements à notre vie, être de meilleures personnes, du fait de ce que nous avons appris et entendu ici. Père, nous te remercions du rétablissement de l'Évangile et de l'expiation de Jésus-Christ, qui nous donne la certitude de la résurrection et la possibilité de nous repentir et de changer, d'obtenir le pardon. Aide-nous à utiliser ce grand don que tu nous as fourni par l'intermédiaire de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general conference.
Vous venez d'assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.